Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Alors c'est vrai, il n'y a pas que le foot dans la vie, mais ce soir quand même il y a ça. Contre ça. Les musicologues patentés auront reconnu l'hymne français suivi de l'hymne allemand. France-Allemagne, premier match des Bleus à l'Euro. France-Allemagne, forcément une affiche à part, un révélateur aussi. On va savoir ce que vaut vraiment cette équipe de France, savoir si elle peut rêver loin et nous avec. À condition évidemment de ne pas se faire une montagne des joueurs germaniques. Peut-être en entrant sur le terrain, nos Français pourront-ils méditer cette petite phrase d'Éric Cantona, le philosophe du football. Je ne joue pas contre une équipe en particulier, je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Bonsoir Amandine Bégaud, vous avez 4 heures.
Bonsoir Thomas, un petit peu moins. Bonsoir à tous, un peu moins. Oui.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce 15 juin.
Et à la une ce soir, Nicolas Sarkozy au tribunal, le coup d'envoi de la vaccination des plus de 12 ans. Et puis stationner à Paris va coûter plus cher, beaucoup plus cher, jusqu'à 6 euros de l'heure. Même les deux roues vont devoir mettre la main à la poche.
Le tarif, c'est une escroquerie, c'est trop cher. Mais de toute façon, on est contre. Quoi qu'il arrive, quel que soit le prix, on est contre.
À 18h40, juste après l'œil de Philippe Cavrière, qui est motard, c'est Raphaël Liorca qui sera avec nous. Il a décortiqué la marque Macron et il en a fait un livre aussi inattendu que passionnant. La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On ne peut pas parler d'un pic de fraîcheur aujourd'hui, mais on pourra parler d'un pic de chaleur demain.
Exactement, puisqu'on aura 30 à 35 degrés au nord comme au sud, 35 à Paris, Orléans, Lyon, Toulouse. Moins chaud évidemment près de la Manche avec 24 à Cherbourg. Encore beaucoup de soleil demain matin, juste un peu plus de nuages sur la façade atlantique et une évolution orageuse en journée avec des orages plus marqués au nord entre la Normandie et la Bretagne, et puis sur une large moitié est, encore du très beau temps.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et pour commencer donc, direction Munich. C'est là, dans moins de 3 heures maintenant, que les Bleus vont disputer leur premier match de l'Euro. Covid oblige, les supporters français sont peu nombreux à avoir fait le déplacement. 2500, pas plus, mais ils sont bien décidés à se faire entendre, Julien Potrat.
Ah oui Amandine, ici les supporters aux abords du stade sont tous bien décidés à faire la fête. Plus d'un an et demi qu'ils n'ont pas revu les Bleus.
Franchement, ça fait du bien de se retrouver un petit peu ensemble, de l'impression de revivre ce qu'on a enterré pendant 2 ans. Là.
Et ici à Munich, en plus, les mesures sanitaires sont un peu plus relaxes concernant par exemple le port du masque. Et c'est très très agréable.
On va mettre du bruit, voilà, on va mettre de l'ambiance. Ils vont savoir qu'il y a des Français qui sont ici.
C'est vrai que les Français ont un peu réchauffé l'atmosphère en ville, notamment aujourd'hui.
Ah bah ça manquait depuis tout ce temps. En plus, moi je fais surtout les déplacements européens. Et là, c'est génial de retrouver ça. Cette festivité tous ensemble, ça a manqué, on revit.
On a l'équipe pour aller au bout. Maintenant, il faut toujours le petit brin de réussite, le brin de chance et puis profiter du moment présent. Voilà.
Aller au bout, profiter du moment présent. C'est une belle soirée de fête qui commence ici à Munich pour les supporters français.
Et ça fait du bien de les entendre, ces supporters français. Julien Fautra.
C'est exactement ce que je me disais.
Allez-y. En direct de Munich, l'autre envoyé spécial d'RTL, c'est Philippe Sanfourche. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
On l'a compris, il va y avoir de l'ambiance ce soir, du beau spectacle aussi sans doute. France-Allemagne, c'est un gros match, un choc entre deux grosses équipes qui se connaissent par cœur, et notamment les 4 Français qui jouent au Bayern.
Oui, c'est peu dire qu'ils ont leurs habitudes et qu'ils l'aiment, Benjamin Pavard, ce stade de l'Allianz Arena.
Sincèrement, je pense que c'est l'un des plus beaux d'Europe, donc c'est sûr que ça fait plaisir de revenir.
Plaisir et bizarre, Kingsley Coman joue à Munich depuis 6 ans. Il a presque plus d'amis dans la Mannschaft qu'en équipe de France.
C'est sûr que ça sera spécial de voir en face peut-être 5, 6, 7 joueurs avec qui j'ai l'habitude d'évoluer.
Dont le prodige Joshua Kimmich qui ne cesse de le chambrer quotidiennement depuis des semaines.
Il m'a envoyé un message pour dire « Oh là là, quand je vois cette équipe, je sais que vous n'avez aucune chance. » Alors qu'il sait qu'on n'a que des gros joueurs et que ce ne sera pas facile, mais il aime bien tous les jours jouer à FaceTime de lui pour me dire qu'on est déterminé, on a envie et vous devez avoir peur.
Adversaires mais pas ennemis, ils n'auront évidemment pas l'occasion de se retrouver après la rencontre. Benjamin Pavard en a pris son parti.
Oui, ça va être un moment spécial. Après, je ne pourrai pas rentrer chez moi, on sera à l'hôtel. Mais si vous voulez prendre une bière, il y en aura dans mon frigo.
Décontracté, chambreur, mais déterminé, tous promettent que pendant 90 minutes, le Bayern n'existera plus, seul contre l'équipe de France.
Philippe Sanfourche à Munich. Philippe qu'on retrouvera bien sûr en commentaire tout à l'heure avec Nicolas Georgerot. France-Allemagne, je vous le rappelle, c'est à suivre sur RTL, RTL Foot spécial dès 20h, ce soir, dès 20h.
Et à 18h04, on garde un œil sur l'autre match de ce groupe F, Hongrie-Portugal. Baptiste Durieux, la rencontre a débuté il y a moins de 5 minutes.
Absolument, c'est le début de la compétition pour les champions d'Europe en titre. On a parlé évidemment des champions du monde en titre, l'équipe de France, mais il y a aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo qui est bien là, mais pour l'instant 0-0 donc entre le Portugal et la Hongrie, avec une frappe à l'instant assez incisive, mais ça ne donne rien. 0-0, 5 minutes de jeu ici à Budapest.
Merci à vous Baptiste, on vous retrouve bien sûr tout au long de ce RTL Soir pour faire le point sur ce Hongrie-Portugal.
Dans l'actualité de ce mardi soir également, le coup d'envoi de la vaccination des ados, Amandine.
Et ça part fort si l'on en croit le patron du site Doctolib, plus de 60 000 rendez-vous pris dès hier soir, soit un rendez-vous sur quatre. Alexandre de Saint-Aignan, vous êtes allé vérifier tout ça au grand centre de vaccination de la Défense à l'Arena.
Oui, dans la file d'attente, beaucoup d'adolescents accompagnés par leurs parents, même le directeur médical du centre, Thomas Lescaut, a été surpris.
Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer dès le premier jour, dès les premières heures de vaccination, on constate que de nombreux jeunes viennent se faire vacciner.
Maxence a 17 ans et demi, son père a profité de sa pause déjeuner pour l'emmener se faire vacciner.
Moi, je n'étais pas au courant, on m'a prévenu ce matin que j'allais me faire vacciner.
Bon, même s'il a été surpris, il est d'accord, hein, et ses deux parents ont bien signé l'attestation. Basile a lui aussi 17 ans, il a été obligé de convaincre sa maman.
Mon père est déjà vacciné, mais ma mère non, elle a un peu peur des effets secondaires. Mais elle a signé sans aucun problème, pour elle, je suis bientôt majeur, et elle respecte mes choix tout simplement.
Bon, la principale motivation des adolescents, elle est assez terre à terre, les vacances qui approchent, mais pas seulement pour Romain, tout juste 16 ans.
C'est vachement utile, puis ça permet de sortir tout le monde de la galère. C'est le plus important, et puis bah, si on veut pouvoir aller dans les stades à l'Euro, faut se faire vacciner à fond là.
Voilà, une belle motivation. À partir du 30 juin, sachez que les stades pourront à nouveau accueillir plus de 5000 supporters à condition d'être vaccinés ou au moins d'avoir un test PCR négatif.
Tout nous ramène au foot
mais
ce
oui,
soir en fait.
Mais
hein, c'est
il
incroyable.
Faut toujours une motivation aussi et ça c'est bien. Alexandre de Saint-Aignan, merci. En matière de vaccination, attention, les règles changent. Hein. Le délai entre les deux doses est modifié, compté désormais entre 3 et 7 semaines. Entre la première et la deuxième injection, cela concerne uniquement les vaccins à ARN messager, le Pfizer et le Moderna. Les suites du procès Big Malion et une audience très attendue aujourd'hui, celle de Nicolas Sarkozy. Dans ce dossier, l'ancien président est poursuivi pour financement illégal de campagne. Jusqu'ici, il n'avait pas mis les pieds au palais de justice, hein, pas depuis le début de ce procès. Mais à la barre tout à l'heure, il s'est rattrapé, défendu et pas qu'un peu, si j'ose dire, Cindy Hubert.
Oui, Nicolas Sarkozy tient la barre depuis plus de 4 heures maintenant. Aucun signe de fatigue. L'ancien président est prêt à le répéter sur tous les tons. Il n'a rien à voir avec cette fraude. Ce n'est pas lui qui a géré l'organisation de sa campagne. Vous croyez que j'avais que ça à faire, moi, de m'occuper de la sono, des bus ou des meetings? Soit j'étais à l'Elysée, soit j'étais sur les routes. Premier mouvement d'épaule. Les devis ne passaient pas par ses mains. Ses épaules tressaillent à nouveau. Vous avez déjà vu, vous, Chirac, vérifier des factures? Cette fois, ce sont ses talons qui claquent. Le prévenu prend toute la salle à partie, l'huissier, le public. Monsieur Sarkozy, monsieur Sarkozy. La présidente ne lui laisse aucun répit. Il dérive, elle revient à la charge. Pourquoi cette débauche de moyens alors même que les experts comptables ont déjà tiré la sonnette d'alarme à deux reprises? Mais c'est une fable, s'énerve Nicolas Sarkozy. On n'a pas fait une campagne en or massif. La musique, c'était gratuit par exemple. C'est un ami de Carla qui l'a fait. J'ai dit n'engager aucune nouvelle dépense. Fini. Elle est où la négligence? Nicolas Sarkozy fait enfin une pause et sourit. J'espère que vous ne pensez pas que je suis en train de me défiler.
Compte rendu d'audience signé Cindy Hubert pour RTL, Nicolas Sarkozy qui, dans cette affaire en cours, on le rappelle, un an de prison et 3750 euros d'amende.
Et au même moment où presque, séquence retrouvaille à l'Elysée, Emmanuel Macron recevait Édouard Philippe pour lui remettre l'ordre du grand officier de la Légion d'honneur. Une cérémonie en petit comité, en présence notamment d'Alain Juppé. Pas d'image ni de micro, mais William Galibert, on a eu droit à beaucoup de messages et pas forcément des messages subliminaux.
Oui, sur l'estrade, ils sont là, juste tous les deux. Le président s'accroche à son pupitre, Édouard Philippe, debout, un peu raide, ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Il y a des sourires. « Votre barbe est devenue l'image de la crise », lance Emmanuel Macron. Mais il y a aussi peut-être un brin de nervosité. Les choses ne sont plus tout à fait pareilles depuis que le président lui a trouvé un remplaçant à Matignon. D'ailleurs, dans son discours, le chef de l'État emploie souvent le passé composé. Il dit « Nous avons formé un attelage harmonieux et complémentaire ». Il loue la souple rigueur d'Édouard Philippe. Il s'arrête aussi sur, je cite, sa « loyauté intangible », comme s'il fallait souligner cette loyauté pour s'assurer qu'elle serait toujours au rendez-vous. Rendez-vous de 2022 notamment. « Vous apporterez beaucoup à la majorité présidentielle », prédit Emmanuel Macron. Édouard Philippe, lui, reste toujours aussi flou sur ses intentions.
Ça ne change pas. Hein. William Galibert du service politique de RTL. Petite pause dans un instant. Si vous nous écoutez en scooter ou en moto à Paris, ça risque de grogner parce que le stationnement gratuit dans la capitale, c'est terminé. Et ça va coûter une blinde.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h11, la suite du journal et un tollé donc ce soir des motards parisiens, Mandine Bégo.
Fini le stationnement gratuit. À partir du mois de janvier prochain, les deux roues seront priées de passer par la case au rodateur entre 2 et 3 euros de l'heure. Scandaleux, dit ce soir Jean-Marc Bellotti, c'est le président de la Fédération des Françaises des motards en colère de Paris.
Le tarif, c'est une escroquerie. Une place de voiture, on met 3 à 4 deux roues motorisées dessus. Et là, on paierait la moitié. C'est trop cher. Mais de toute façon, on les contre. Parce que si on part de ce principe-là, du coup, les piétons doivent payer parce qu'ils occupent le trottoir. Les vélos, et ben donc, ils devraient payer aussi l'espace public. Or, on est d'accord, on va pas faire payer les vélos. C'est pour ça que nous, usagers de deux roues motorisées, ça devrait rester comme ça. On ne devrait pas payer par rapport à l'espace public parce que c'est pas une question de parité. Ça n'a rien à voir.
Le président des motards en colère de Paris, qui porte bien leur nom pour le coup. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Vous avez sorti la calculette?
Oui, les motards et les cyclomotoristes qui vivent à Paris et qui garent leur bolide à côté de chez eux devront payer environ 250 euros par an à partir de l'année prochaine. Là, il s'agit uniquement du stationnement résidentiel. Avant, effectivement, ils ne payaient rien. Et par ailleurs, ils devront aussi régler 3 euros de l'heure dans la zone 1, qui comprend en fait les arrondissements qui sont dans le centre de la capitale, 2 euros de l'heure partout ailleurs. David Belliard, l'adjoint écologiste en charge de la réforme du stationnement, justifie cette mesure.
Il est plutôt juste que les utilisateurs et utilisatrices de deux roues motorisées s'acquittent aussi d'un tarif pour pouvoir occuper l'espace public, bien sûr, à hauteur de l'espace public qu'ils occupent.
Et voilà pourquoi les utilisateurs de deux roues paieront la moitié des tarifs appliqués aux automobilistes.
Et justement, les automobilistes, ils ne sont pas en reste. Hein.
Effectivement, ils devront désormais payer 6 euros de l'heure au lieu de 4 auparavant. Ouf. Dans la zone 1, 4 euros de l'heure au lieu de 2 euros pour le reste de la capitale. Ces tarifs, ils sont applicables à partir du mois d'août. Et les amendes, évidemment, elles augmentent aussi pour tous les véhicules. 75 euros désormais, c'est 25 euros de plus qu'auparavant. Précision importante, néanmoins, le stationnement des véhicules électriques reste gratuit. Ah. Les motos et les scooters électriques, gratuit.
C'est pas si grave alors.
Oh non.
Pardon, je plaisante, je ne veux pas énerver tous ceux qui sont en train de faire vrombir le moteur. Merci Arnaud Touche du service économie d'Europe 1.
Allez-y, Amandine.
Le soleil. Hasard de l'actualité, le stationnement résidentiel sera gratuit demain à Paris. Et ça en raison d'un épisode de pollution à l'ozone. La préfecture recommande par ailleurs à chacun de réduire sa vitesse de 20 km/h.
La bonne nouvelle. RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Des nouvelles rassurantes de Christian Eriksen. Vous savez, c'est ce footballeur danois qui a fait un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande. Eh bien, il a posté aujourd'hui une photo de lui sur les réseaux sociaux. Photo où l'on le voit le pouce levé avec un large sourire, accompagné de cette légende. Je vais bien, étant donné bien sûr les circonstances. Je dois encore faire des examens à l'hôpital, mais je me sens bien, écrit-il. Il remercie au passage bien sûr tous ses coéquipiers et tous ceux qui lui ont apporté du soutien depuis samedi.
Et ben ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Merci beaucoup à vous, Amandine. À tout à l'heure. Un champion du monde et un champion d'Europe en un seul homme, c'est bien le minimum requis pour parler d'un match France-Allemagne. Dans un instant, c'est donc Franck Leboeuf qui est l'invité de RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il nous a fait rêver en bleu en 98, il nous a fait vibrer en 2000, champion du monde et champion d'Europe, Franck Leboeuf est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Franck Leboeuf.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Bienvenue. Ce soir pour l'équipe de France, c'est pas qu'un match de premier tour, mais l'affiche face à l'Allemagne aurait aussi bien pu être une finale. Des matchs avec autant de pression, vous en avez connu Franck. À moins de 3 heures du coup d'envoi, que font les joueurs ?
S'ils sont pas sans doute pas dans les vestiaires encore, parce que là la tension retombe un petit peu quand on est dans les vestiaires, on se retrouve un peu comme toujours tous été, c'est-à-dire des joueurs de foot. Et là on sait ce qu'on fait. C'est l'attente qui est plutôt insupportable, le déplacement. Quand on arrive au stade, on voit les supporters aussi qui viennent nous saluer, donc ça met un peu plus de pression. Mais on refait pas le match, on se concentre sur ce qu'on doit faire, on discute, on essaye d'évacuer toutes sortes de pressions. Voilà, on sait ce qu'on vaut. On espère qu'on va pouvoir être à la hauteur. Et puis après, on y va.
Alors on y va parce que évidemment les matchs ne se jouent pas sur le papier, mais bien sur le terrain. Ma question est donc un peu absurde, mais comme on a un peu envie d'être rassuré quand même, je vous la pose quand même. Franck Leboeuf, sur le papier, qui sont les plus forts, les Français ou les Allemands?
Sur le papier, définitivement les Français.
Définitivement.
Mais oui, définitivement, on a la meilleure équipe au monde sur toutes les lignes, partout, à tous les postes. Tout le monde nous envie. On a même un banc extraordinaire parce que je pense que en cette période où il y a eu quand même la Covid, donc pas mal de blessures, beaucoup de matchs pour certains, les remplaçants sont très très importants. Et je sais de quoi je parle, mais cette année encore plus. Je pense que des Coman, des Dembélé et autres qui rentreront, apporteront leur pierre à l'édifice. Mmh. Mais définitivement, la France est sur le papier meilleure que l'Allemagne.
Moi, ça me fait un peu peur, ces adverbes-là, définitivement, parce que c'est sûr que cette équipe de France, elle cache pas ses ambitions, elle assume son statut de favori, et forcément, ça nous rappelle des mauvais souvenirs, peut-être à vous aussi, hein, la Coupe du Monde 2002, la triste élimination de la France.
En 82, définitivement, la France n'était pas la meilleure équipe au monde.
Non, je vous parle de 2002, là. 2002, la Coupe du Monde en Corée.
2002 ouais. Non, mais attendez. Définitivement, nous étions champions du monde. Et définitivement, nous avons été mauvais en 2002.
Vous avez définitivement parié que vous diriez plus définitivement que moi ce soir ou...
Voilà, c'est ça exactement. Mais le football est fait d'incertitudes. Pourquoi nous aimons ce sport? C'est que rien n'est écrit à l'avance. Sinon, je vous jure, je ferais des paris tous les jours et je serais milliardaire. Mais c'est la problématique du football. C'est qu'on a beau avoir toutes les certitudes qu'on veut, il y a quelque chose qui se passe. Écoutez, si Baggio en 98 en quart de finale, au lieu de taper sur le poteau sortant, avait fait poteau rentrant, vous m'interviewiez pas parce que je serais pas champion du monde. Vous voyez. Donc c'est ça le football, c'est un poteau, c'est un hors-jeu, c'est une faute d'arbitrage aussi. Voilà, ça fait partie de cette beauté du sport qu'il faut accepter, même si quelquefois il y a une certaine forme d'injustice.
Les Bleus ce soir, Franck Leboeuf, devraient mettre un genou à terre avant le coup d'envoi en signe de lutte contre les discriminations. Il y a d'autres équipes qui l'ont déjà fait. Est-ce que vous l'auriez fait, ça?
Je pense que je l'aurais fait. Je pense que, je sais pas si c'est, pour certains, ça a assez duré. Je connais pas trop les tenants et les aboutissants. Je connais le départ de l'histoire, mais je sais pas pourquoi certains ne veulent plus le faire et d'autres se battent pour que ça s'arrête. Mais moi, pour montrer ma solidarité par rapport à des choses qui sont claires et précises, c'est-à-dire que oui, nous blancs, nous sommes privilégiés et il faut que ça s'arrête parce qu'on devrait tous être égaux. Donc je pense qu'il faut que les blancs le disent.
Pardon, Franck, mais est-ce qu'on mélange pas tout quand on fait ça? Parce que oui, évidemment, ce sont des combats et des causes qui sont justes. Mais est-ce que c'est le job des footballeurs? Est-ce qu'on leur demande pas trop de choses?
Mais on demande beaucoup de choses aux footballeurs. Vous savez, un footballeur qui fume un pétard, il est suspendu 3 mois. Hein, alors qu'une star du rock'n'roll, s'il fume pas les pétards, on lui demande ce qui se passe. Oui. Voilà, donc on lui demande aussi de pas boire, on lui demande d'être bien, de bien parler, de. En fait, on restait sur l'esprit grec, un esprit sain dans un corps sain dans un esprit sain. C'est ça la problématique, l'histoire de l'image. Ben non, nous ne sommes que des hommes. Les joueurs qui vont s'affronter ce soir ne sont que des hommes avec leurs faiblesses, parce que si on est humain, c'est qu'on a une certaine faiblesse, mais voilà, moi je pense qu'il faut s'arrêter avec ça. Il faut s'arrêter à demander aux joueurs de foot d'être aux joueurs sportifs en général.
Oui, parce qu'en fait, on va pas juger ceux qui le font, on va commenter ceux qui ne le font pas. Donc on crée des polémiques artificielles et après sur les plateaux, les toutologues là pendant des heures vont débattre de ça. C'est en ça que je vous pose la question.
Oui, mais parce que bon, c'est venu aussi du sport. Hein. C'est un joueur de football américain qui la première fois a mis le genou à terre. Pour se battre contre les différences entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Donc voilà pourquoi ça ressurgit et ça éclate au sport. Mais ça voudrait dire que dans toutes les émissions que l'on voit à la télévision, il faudrait mettre le genou à terre. Enfin, moi je peux comprendre ça. Enfin, voilà, ça a une symbolique forte. Le sport a une symbolique forte. Il y a quelque chose de très fort chez les gens qui aiment le sport, c'est-à-dire qu'ils acceptent le combat, ils acceptent le résultat, et donc peut-être que ça nous met tous au même pied d'égalité, sur le même pied d'égalité. Le football est un sport extraordinaire où le petit, le gros, le noir, le blanc, enfin tout ce qu'on veut, a sa chance dans le football. C'est une réalité. Peut-être dans d'autres sports, c'est pas le cas. Je prends le basket, faut être très grand, par exemple. Hein, mais le football, tout le monde a la possibilité de réussir. Peu importe son physique, peu importe sa couleur de peau, peu importe je sais quoi. Mais voilà, c'est possible.
Franck Leboeuf, aujourd'hui, vous êtes dans quel état, vous, quand vous regardez un match de l'équipe de France de foot?
j'ai un peu plus de patience qu'avant, un peu moins la jambe qui bouge, le pied qui bouge.
C'est toujours viscéral ou pas, ou vous êtes un supporter comme un autre aujourd'hui? C'est encore votre maison ou plus vraiment?
Je ne suis pas supporter, j'ai jamais été supporter, j'ai été acteur, je regarde ce qui se passe, j'analyse ce qui se passe, j'essaye d'en faire une conclusion par rapport au résultat, mais je travaille pour des médias aussi, donc je dois donner mon avis. Je regarde ce qui se passe, je regarde l'ensemble. je regarde l'ensemble collectif parce que je n'ai pas oublié que c'est un sport collectif. Je deviens fou avec ces ballons d'or et ces choses-là parce que on s'américanise à mort et on devient individualiste à mort alors qu'on fait un sport collectif. Donc je regarde l'ensemble collectif.
Il y a trop d'emphase autour de tout ça. Il y a trop de voilà, on fait trop de chichi autour de tout ça.
Mais oui, on est dans les statistiques. C'est-à-dire que mais moi j'aurais été extraordinaire. J'aurais fait des statistiques. J'aurais eu du 100%. J'aurais pas fait une passe en avant. J'aurais fait que des passes latérales et en arrière. Et j'aurais eu du 100%. On aurait dit que j'étais un super joueur. Enfin, ça veut rien dire tout ça. On voit hier l'Espagne qui fait 830 passes contre la Suède qui en fait 89. Et à la sortie, vous avez 0-0. Donc vous en sortez quoi de tout ça? Quelles analyses vous faites de tout ça? Moi, je pense que
vous dites on laisse tomber un peu les statistiques, on laisse tomber les tableaux d'honneur individuels et on regarde un groupe jouer.
Mais oui. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment parce que le football ne s'en sortira pas comme ça. La seule chose que dont on pense de N'Golo Kanté maintenant, c'est est-ce qu'il va prendre le ballon d'or à Lewandowski qu'il n'a pas eu l'année dernière. Mais on s'en fout. Ouais. Sincèrement, on s'en fiche. C'est pas ça l'esprit du sport. C'est pas ça l'esprit de mon sport. Le sport, un sport collectif, ça se gagne. Bien sûr qu'il y a des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec Zinedine Zidane. Et bien sûr qu'il est mis en avant. Et j'ai aucun problème avec ça. Mais Zizou vous le dira en premier. S'il n'avait pas Laurent Blanc, Marcel Desailly, Yann Thuram, Lizarazu, Fabien Barthez, il n'aurait pas gagné la Coupe du Monde. Donc il faut arrêter de personnaliser ce sport parce que individualiser ce sport parce que c'est pas un bon exemple. On parlait d'exemple tout à l'heure. Les enfants doivent comprendre que ça se joue à 11 et même à plus certaines fois parce qu'on a besoin de tout le monde.
Ben, je suis très heureux de vous entendre et je trouve ça très intéressant et je suis définitivement content de vous avoir invité Franck Leboeuf ce soir.
Et quand vous voulez.
Bientôt un retour sur les planches pour vous, hein, c'est ça?
Oui, là on continue le collectif avec mes trois collègues. On fait drôle de campagne et on va être en tournée pendant 2 ans un peu partout en France, en Belgique, en Suisse notamment, au Luxembourg peut-être. Donc voilà, ça va être sympa.
Ça va être sympa et vous retrouvez quand même un tout petit peu de l'adrénaline du terrain ou pas?
Non, on peut pas comparer. C'est vraiment sympa. Je prends un pied extraordinaire à être sur scène, à m'éclater, à faire plaisir aux gens. Mais il n'y a pas cette animosité quand vous pouvez la ressentir sur un terrain. Il n'y a pas cette incertitude parce que vous connaissez en principe votre texte, hein, même s'il peut y avoir des surprises. Mais en principe, vous n'avez pas quelqu'un qui va rentrer sur scène et qui va essayer de vous faire mal jouer. Le sport a quelque chose d'unique. C'est certainement pour ça qu'on l'aime, c'est qu'il y a son incertitude et cette adversité. Le théâtre est une discipline extraordinaire parce que il n'y a pas de filtre, il faut y aller. Il y a une heure et quart, une heure et demie sur scène.
Faites attention parce que nous on n'a pas une heure et quart, une heure et demie là, on arrive au bout quand même.
Je ressens pas ce que j'ai ressenti dans le sport, mais c'est pas grave, c'est pas ça que j'étais venu chercher. Je suis venu chercher du plaisir.
Quel score ce soir? La question la plus pourrie.
Allez, 2-1 pour les Français.
Demain pour les Français. Merci beaucoup Franck Leboeuf. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci. Bonne soirée.
Au revoir. À suivre, l'œil de Philippe Cavrivière. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Je vous sens un peu déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, Thomas, car Roland-Garros est finite et je n'ai plus d'excuses pour rien foutre devant la télé.
Ouais, c'est vrai.
Du coup, j'ai bossé ma chronique. Enfin, bossé. Avec ses chaleurs,
quand
ça,
je vous écoute
dur.
Le mardi et le jeudi, j'ai l'impression que Roland Garros a commencé en septembre.
C'est
même.
Ça. Mais avec les chaleurs, je ne sais pas fournir d'efforts intellectuels quand il fait chaud. Voilà. Oui. Je comprends le retard industriel des pays du Sud.
D'accord.
Mais tel Djokovic qui a offert sa raquette, je vous offre le stylo avec lequel j'ai écrit ma chronique.
Eh bien, très bien. Je ne sais pas où je vais le ranger.
Les petits garçons. Vous êtes moins émus que les petits garçons. Vous en foutez, quoi. Bon, voilà.
Ouais. Merci beaucoup. Moi, je vous offre le ballon parce qu'on a mis des décors.
C'est vrai bizarre, je repars avec.
Le ballon. Ah, vous verrez ça avec la direction d'RTL. Dans un instant, le rappel des titres et puis ce sera Philippe Cavrivière.
Thomas Soto, RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres à 18h30.
Et à la une ce soir, le début de l'Euro pour les Bleus. Ils affrontent l'Allemagne, coup d'envoi à 21h tout à l'heure à Munich. Ce sera bien sûr à suivre sur RTL, RTL Foot spécial Euro. Hein, c'est dès 20h avec tout le service des sports en ce moment. La Hongrie affronte le Portugal. C'est l'autre match de ce groupe F. Baptiste Durieux, 30 minutes de jeu et toujours 0 partout.
Absolument, les Portugais qui sont beaucoup plus entreprenants évidemment et qui dominent cette rencontre sans
surprise, mais le bloc hongrois est extrêmement solide et ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Portugais sur ces 90 minutes. La demi-heure de jeu est passée 0-0 entre la Hongrie et le Portugal.
Et vous revenez vers nous, bien sûr, dès le moindre but. L'actualité, c'est aussi le coup d'envoi de la vaccination pour les plus de 12 ans. Dans le même temps, le ministère de la Santé annonce une réduction du délai entre les deux doses, comptée désormais entre 3 et 7 semaines entre la première et la deuxième injection. Attention, cela ne concerne que les vaccins ARN messagers. Et puis à Paris, fini le stationnement gratuit pour les deux roues. À partir du mois de janvier prochain, les motos et les scooters non électriques devront payer entre 2 et 3 euros de l'heure selon les arrondissements.
La météo, Peggy Broche, ça va encore grimper demain.
Exactement, Thomas. 36 à Bourges comme à Auch, 35 à Paris, 34 à Strasbourg, Bordeaux ou encore Montélimar. 33 degrés attendus à Nantes et plus tempéré près de la Manche du côté de Cherbourg avec 24 degrés. Encore beaucoup de soleil demain. Juste un peu plus de nuages avec une petite ondée possible sur la façade atlantique le matin. Ça tournera à l'orage de manière très localisée l'après-midi. Et des orages plus forts avec de la grêle entre la Bretagne et la Normandie. Et à l'est, ça restera très beau. Une petite averse orageuse possible en montagne uniquement sur les Alpes et la Corse.
Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrière. Oui. Philippe, alors on se dit tout Philippe. Hein. Vous cachez
oui.
rien aux auditeurs.
Non, moi, je cache rien aux auditeurs.
Vous avez donc eu un petit souci puisque votre domicile
trois
a été...
rien.
Cambriolé, c'était vendredi dernier, le 11.
Tout à fait. Macron giflé, Mélenchon enfariné, Cavrivière cambriolé. Pourquoi ces trois leaders d'opinion sont-ils visés? Bon, j'aurais préféré prendre une claque dans la gueule ou un kilo de farine, ça m'aurait coûté moins cher. Des joueurs de foot du PSG ont été cambriolés aussi récemment. Je vous cache pas que si c'est les mêmes cambrioleurs, les gars ont dû être déçus en farfouillant chez moi. Rapport à la petite différence de salaire entre un joueur du PSG et un chroniqueur d'RTL.
Bon, ça joue à rien.
Ah, trois fois rien. Je crois qu'ils sont encore en train de chercher le coffre-fort. Et les gars, je vous dis que je touche 17 euros par chronique. Arrêtez.
Non, brut. Vous avez des soupçons, Philippe? Qui a fait ça?
Bête. Écoutez, mes soupçons sont tout de suite naturellement portés sur les personnes étrangères de mon entourage, n'est-ce pas, monsieur Soto? À commencer par ma compagne, qui n'est pas de religion française. Enfin, pas la bonne, en tout cas. Heureusement, les cambrioleurs n'ont pas pris l'édition collector de Mein Kampf que vous m'aviez offert, Thomas. Je suis soulagé. Mais ils m'ont quand même piqué pas mal de choses. Moins que les impôts, c'est sûr. Puis, eux ne reviennent pas tous les mois. Enfin, j'espère.
En principe.
Parenthèse, je suis très déçu du comportement de Roméo et Snatch, mes deux chats,
oui.
Présents au moment du cambriolage. Ils n'ont rien tenté pour faire fuir les cambrioleurs. Le chat, en termes de défense du domicile, est peut-être derrière le poisson rouge qui ne va pas se planquer sous le canapé, lui.
Eh oui,
petit
oui.
bâtard.
Bon, cela dit, on connaît votre côté philosophe, Philippe.
Toujours.
Vous essayez de positiver cette expérience douloureuse.
Oui, toujours positiver, bien sûr. Le cambriolage permet de faire le tri. On s'attache à des choses qu'on est incapable de jeter et le cambrioleur nous aide à sauter le pas quelque part. Il nous invite à être moins matérialistes et on est même vexé quand certains objets ne séduisent pas les coquins chapardeurs. Oh ben, elle était jolie, cette petite statuette africaine d'un gorille en érection. Mais elle m'avait quand même coûté 25 000.
Non, 30 000.
Bah, 30 000 en plus.
Bon, en tout cas, ça vous a permis d'être en contact avec des policiers. Ils ont critiqué les policiers. Comment vous les avez trouvé très professionnel, je crois. Hein.
Très pro. Ouais. Ah, ils ont embarqué ma femme direct. Elle est sympa l'Algérie, n'est-ce pas? Je salue nos auditeurs. On a des auditeurs algériens.
On en avait. Avant vous.
Alors, je tiens à remercier les policiers. Alors, pour ce qui est de retrouver mes effets personnels, j'ai autant de chance que Roger Federer de gagner Wimbledon.
Ta gueule.
C'est foutu. Cela dit, j'ai confiance dans la police française.
Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
Voilà, je vous tiendrai au courant, heure par heure, du patinement de l'enquête.
C'était de la peur, ça. Hein.
C'était de la peur, bien sûr. Évidemment. Classique. On embrasse Dominique Farrugia.
On va parler actualité, Philippe. La France compte désormais 30 millions de personnes qui auront eu au moins une dose de vaccin.
Eh oui, on reconnaît. Ça a été facile, celle-là. Hein.
30 millions d'amis.
Souvenir. Ouais. Si vous connaissez le générique, vous êtes vieux, comme moi. Vous avez plus de 40 ans. Ouais. Bah, ouais, plus de 40 ans. Bah. Nous sommes 30 millions d'amis de Macron, tatoués, vaccinés, étoilettés. Mais ça ne suffit pas pour atteindre l'immunité collective. Il reste encore un petit groupe d'irréductibles gaulois réfractaires qui résistent au vaccin. Ils ont deux leaders, le barbe Francis Lalanne dit « Je tape des journalistes » et Jean-Marie Bigard, j'ai trop bu Pastix, accompagné de leur petit chien, Complotix.
Bon, en même temps, on n'a pas très envie de mettre la musique d'Astérix sur ces personnages.
Hein. Non
bon.
Plus.
Bon, les fêtes sauvages se multiplient, une question se pose, Philippe, et ça c'est un peu...
le conseiller des gouverneurs que, ouais. que je la pose, faut-il lever le couvre-feu ?
Bah, disons qu'à Paris, le couvre-feu est autant respecté que Jean Castex à l'Élysée. Jeannot qui est encore à l'isolement, il faudra penser à ne pas l'oublier en partant. Les jeunes n'ont pas lâché les gestes barrières, ils ont carrément pris la barrière, ils l'ont balancé dans la gueule de Castex et Véran. Alors j'entends des jeunes dire « Ouais, on a besoin de lâcher prise après une année scolaire difficile ». Alors jeune, tu es allé au lycée 8 fois en un an. Et pour ceux qui vont aller voter, les régionales, ça va quasiment doubler ton ouais. temps passé à l'école. Alors calmos, hein, le jeune, c'est comme sûr. Disent les jeunes de 45 ans.
Quelques mots de politique internationale
C'est aussi de mon domaine.
Oui. Les membres du G7 ont décidé d'une aide de 1 milliard de doses de vaccins pour les pays pauvres, dont 60 millions pour la France. La France va en envoyer 60 millions.
Voilà, la France dans les pays pauvres. Donc Joe Biden, en nous balançant 60 millions de doses, ouais. nous traite carrément de pays pauvres. On ne fait pas la manche, monsieur Biden. Mmh. Nous sommes la France. Mmh. Il va se calmer hein, tout de suite, le Captain America en couche confiance.
Oh,
si, non. C'est vrai.
On revient en France, hein, si vous voulez bien. Avec les élections régionales, vous en parliez, elles approchent.
Les régionales, plus que 5 dodos.
Ah, yes.
Oh, je trépigne d'impatience. Oh, je ne tiens plus en place, moi, tellement j'ai hâte de ces régionales. D'ailleurs, je vais devoir m'absenter pour aller voter chez moi, dans le Sud. Donc, il faudra que RTL me libère pour que je fasse mon devoir citoyen.
Donc, tu es en train de me dire que tu n'es pas là pour la spéciale régionale de dimanche soir. On en parlera après.
Oui. Bon, même si on ne va pas se mentir pour les régionales, j'ai vu les affiches des gens. On n'a pas envie de voter pour des gens qui ont des têtes de voisins de palier. Ils ne font pas politique.
Ouais.
Ils ont des têtes de forcenés. Et on fait quoi avec un forcené ?
Écoutez, laissez la police faire son travail.
Bah oui, ça s'appelle un running, c'est un truc de feignant encore. Mais deux fois la même vanne.
Politique française encore, lors d'un rassemblement de la gauche contre l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon a donc été enfariné et il a déclaré « Ils ne me font pas peur ».
Quel courage, ce Jean-Luc. C'est beau. C'est le Jean Moulin de la farine francine.
Ah, pas mal.
Moulin, farine, abandonne tout. C'est la fin de saison, on donne tout. Hein. Macron se prend une tarte et Mélenchon n'a eu que la farine. Ah bah c'est Mercato,
on fait toutes les radios ce soir.
Appel à toutes les stations, c'est le mercredi, je suis disponible. Alors en tout cas c'est un sujet parfait pour un nouveau numéro d'Enquête Exclusive. Ce soir dans Enquête Exclusive, zoom sur ces attentats boulangers. Chouquette, brioche, cannelé et chocolatine, la viennoiserie est-elle le cheval de Troie de l'extrême droite ? Enquête exclusive à rencontrer ces jeunesses éclairiennes qui vénèrent le maréchal Pétain.
Oh non.
Oh, celle-là. Gros plan sur ces Français qui font rimer fascisme et farine. C'est ce soir dans Baguette exclusive.
Oui.
On a tout donné.
Oh là là,
oh, comme Tsitsipas au 5e
set.
Vous en avez encore. Je suis crevé.
Encore pour jeudi ou pas
au vestiaire.
Courage,
je pars au vestiaire.
Oh, courage. Allez, demain, c'est Valérie Trierweiler qui sera
c'est
avec
mieux.
Nous. Merci
ça va
beaucoup.
Le niveau.
Et si Emmanuel Macron était une marque fabriquée, marketée, packagée, comme on en trouve dans les rayons des supermarchés ? La marque Macron, c'est le titre du livre que publie Raphaël Yorca et il vient nous en parler tout de suite.
RTL Soir, Thomas Otto. Thomas Otto,
RTL Soir.
Il s'appelle Raphaël Yorca, communicant chez Havas et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Il publie La marque Macron aux éditions de l'Aube et il est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous Raphaël Yorca.
Bonsoir.
Évidemment, la marque Macron, dans la bouche d'un communicant, ça interpelle. C'est quoi la marque Macron ?
Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement éclairer le mystère Macron avec d'autres grilles de lecture. Alors, non pas une grille de lecture marketing, je le précise d'entrée. C'est-à-dire, je ne veux pas du tout dire que Macron est un produit comme un autre. Mais effectivement, montrer que Macron s'est construit comme une marque, c'est-à-dire comme un dispositif qui articule des récits, des imaginaires, des signes.
Et je crois qu'il a repris les codes par rapport au marketing. Il a dit, il faut cocher quelques cases et c'est comme ça que je vais construire mon image.
Je crois qu'il a compris qu'il fallait qu'il construise un dispositif de représentation du pouvoir. Et c'est comme ça que j'ai voulu interpréter la marque Macron. C'est-à-dire que c'est un ensemble de signes qui fait sens, qui est cohérent. Et c'est dans cette articulation-là que j'ai voulu voir à la fois comment est-ce qu'il a conquis le pouvoir en 2017 et comment peut-être le dispositif s'est déréglé au fur et à mesure de son exercice du pouvoir.
Ça veut dire que cette marque, elle a été inventée, elle a été imaginée, elle a été faite pour produire un président comme elle aurait pu servir à vendre des glaces si ça avait été un autre objectif, c'est ça ? Il y a le même genre d'approche ?
Non, je refuse cette comparaison commerciale politique. Je pense plus simplement qu'il y a eu cette intuition que le renouveau politique qu'il voulait incarner en 2017 devait se représenter dans un renouveau symbolique. Et je crois qu'effectivement, ils ont compris, ces stratèges, alors certains d'entre eux ont un passé dans des agences publicitaires, ont compris qu'il y avait un génie de la marque dans cette façon précisément d'incarner une vision, un projet plonger dans des signes.
Mmh. Ah, cette marque, quand on vous lit, on s'aperçoit qu'elle est un formidable outil de conquête du pouvoir, et pour cause, hein, il a réussi, il a été élu. Mais pour l'exercice du pouvoir, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Pourquoi ça se complique ? D'ailleurs, vous le dites à partir du 7 mai 2017, le jour même de son élection.
Tout président élu doit incarner le pouvoir différemment de la façon dont il l'a conquis. Ça, c'est une grande leçon de communication politique. Je crois que dans le cas très précis d'Emmanuel Macron, il avait une fascination pour le symbole qui a été sa force motrice en 2017, où effectivement, son rapport à l'histoire, au lieu, au personnage historique, lui a donné beaucoup d'allant pendant la campagne. Et je crois que c'est sa fascination pour le symbole qui l'a perdu, à un moment donné. Je crois qu'il a, à force de vouloir incarner le pouvoir et d'exercer le pouvoir par et pour le symbole, je crois qu'il y a un moment donné où effectivement, à force de vouloir endosser mille et un costumes, on a eu beaucoup de versions de présidents différentes, le président militaire, le président monarque, le président
Jupiter,
même...
Le mémoriel...
Absolument. Tout, ouais. L'entrepreneur, puis l'épidémiologique, puis le président cool, enfin bon, toute une série de costumes différents, où effectivement, le symbole fonctionne une fois, mais lorsqu'on l'agrège dans des directions extrêmement opposées, il y a un risque de flou symbolique qui explique, selon moi, le dérèglement de cette marque.
Sauf que vous allez beaucoup plus vite que ça. Vous parlez donc de ce 7 mai 2017, quand il est au Louvre, on s'en souvient, le soir, après les résultats. Et vous y voyez, je vous lis, les premiers signes du dérèglement de la marque Macron, un certain autoritarisme esthétique couplé à une forme de kitsch, un excès d'incarnation aussi associé à la tentation du sous-titre permanent. C'est quoi la tentation du sous-titre permanent ? C'est le storytelling, la façon de raconter l'histoire, de dire, regardez ce que je fais, je suis en train de faire ça ?
C'est précisément le fait de toujours coupler un texte à une image. C'est-à-dire que dès qu'on propose un contenu, un signe, une image, on lui donne immédiatement, on met en scène le dispositif de communication en donnant, en cadrant l'interprétation du discours.
On en fait trop, c'est ça ce que ça veut dire ?
Alors trop, je crois qu'on met effectivement trop de sous-titres. Ce qui m'a beaucoup frappé dans le Tour de France des territoires, c'est qu'il y a eu en deux temps, d'abord le texte dans Zadig, c'est le sous-titre effectivement, où il théorise sa façon de concevoir sa géographie intime, etc., de différents territoires français, etc. Il part de Saint-Cirq-la-Popie comme de la ruralité heureuse. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il en parle avant d'y aller. Donc on a eu d'abord le texte, puis l'image, pour une façon de cadrer le commentaire et effectivement d'avoir une interprétation en avance qui cadrait son déplacement.
Est-ce qu'il est vraiment transgressif, Emmanuel Macron ? Qu'est-ce que vous en pensez 4 ans plus tard, 4 ans et demi plus tard ?
Je ne crois pas. Et ce n'est pas forcément un tort. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est difficile de le cantonner une étiquette une et unique. Beaucoup ont voulu voir en lui le libéral, alors qu'en réalité, il a pu incarner un autre versant, l'ancien, moderne, le vertical, l'horizontal. En réalité, c'est difficile de lui cantonner une seule et même étiquette. Je pense qu'il passe son temps, effectivement, à flirter sur les dignes et à articuler des contraires sans pour autant paraître contradictoire. Je crois que c'est la grande phrase.
Vous le définissez un peu par la négative.
Absolument.
Ni ceci, ni cela. Alors que le en même temps, c'est plus et plus. Donc là, il y a quand même une façon de regarder le macronisme qui est radicalement différente du récit qu'il veut en faire.
J'ai voulu mobiliser un concept qui effectivement cherchait à mettre un mot à un système de valeurs qui cherchait à expliquer le en même temps, qui cherchait à expliquer le ni droite ni gauche, cette valeur du neutre. C'est une valeur que je suis allé chercher chez Roland Barthes. Ouais. Effectivement, étymologiquement, neutre, c'est ni l'un ni l'autre. Et Roland Barthes nous dit cette chose très puissante, le neutre a cette fonction de désamorcer le conflit. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'il est dans un nini, mais qui est toujours d'une façon d'esquiver le conflit, à ne jamais d'attaquer de manière très frontale, mais toujours en déjouant les oppositions.
Vous parlez aussi des Gilets jaunes, et là vous prenez l'exemple de La Fontaine, une femme de La Fontaine. Il avait compris dans Le Chat, la Belette et le Petit Lapin que pour renverser le pouvoir de Louis XIV, qui reposait sur l'absolutisme, il fallait le prendre à son propre piège. Donc ça c'est La Fontaine qui parle. En quoi les Gilets jaunes ont-ils pris Emmanuel Macron à son propre piège ?
Je crois qu'ils ont construit un dispositif symbolique qui est exactement miroir de celui représenté par Emmanuel Macron. Là où Emmanuel Macron a un récit empli de sacré, de distance, de quelque chose d'extrêmement bien construit, bien léché, à l'inverse, les Gilets jaunes étaient toujours en train de se filmer depuis leur salon, depuis leur camion, en mettant en scène non pas dimension sacrée, mais quelque chose de l'âpreté du réel, la dureté du monde. Et là où Macron, je monte même dans la gestion des couleurs, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve ça intéressant, là où la couleur dominante d'Emmanuel Macron en 2017, c'était la couleur du bleu, qui est la couleur du consensus, dit l'historien des couleurs Michel Pastoureau. À l'inverse, le jaune des Gilets jaunes, précisément, c'est la couleur du dissensus.
Vous lui accordez quand même une part de spontanéité, de sincérité, Emmanuel Macron, ou tout est fabriqué, réfléchi, pensé, tout est stratégie ?
Je crois qu'il y a beaucoup de construit. chez Emmanuel Macron. Et je crois que ses adversaires politiques ont compris que précisément, il ne fallait pas construire une contre-marque, il fallait construire une anti-marque. Mmh. Précisément, ce que je remarque, surtout auprès des candidats de la droite, il y a une forme de refus d'endosser cette logique de la marque, parce que précisément, ça fait penser à quelque chose d'extrêmement construit, d'extrêmement pensé, d'extrêmement stratégique. Et donc, pour, à l'envers, paraître plus authentique, plus vrai, plus sincère, il fallait au contraire faire une démarche d'anti-marque.
Raphaël Liorca, est-ce qu'on peut revendre deux fois le même produit? Est-ce que le Macron de 2017 peut encore être en tête des ventes en 2022?
On gagne jamais deux fois sur la même stratégie, ça c'est certain. Ce qui me frappe, c'est qu'à un peu moins d'un an, la présidentielle, il est extrêmement difficile de voir quelle stratégie il va endosser. Ouais. On a le sentiment qu'il peut encore prendre des stratégies de marque extrêmement différentes les unes des autres. Il a d'abord été plutôt une marque autorité. On le souvient de ces images lorsqu'il l'entraîne dans les voitures de la BAC à Montpellier sur cette offensive sécuritaire. Là, sur ce Tour de France, on a plutôt l'impression d'une marque conversation. Il se remet d'égal à égal avec les citoyens français. Donc, il y a une espèce de grand écart symbolique qui pose beaucoup de questions. Et effectivement, on regardera avec beaucoup d'attention ce qui va se passer dans les mois à venir.
Dernière question, il y a la marque Macron, il y a d'autres marques de politique en France aujourd'hui ou pas?
Je pense qu'il y a une tripartition en ce moment avec deux marques fortes, Marc Macron, Marc Le Pen, avec en second rideau des candidats à 10-15% qui n'endossent pas cette logique de marque et qui, je crois, en fait plutôt le choix d'un positionnement de stratégie électorale, et que dans les tout petits candidats, alors sans aucune connotation péjorative, mais les candidats qui sont soit candidats primaires, soit pas encore tout à fait candidats, je pense à David Linard, ou je pense à Sandrine Rousseau, je pense qu'ils ont compris que pour émerger sur un marché extrêmement dense et extrêmement concurrentiel, il y avait tout intérêt à construire des marques fortes pour précisément porter un discours.
Merci Raphaël Liorca, ça s'appelle donc La marque Macron, c'est passionnant, ça s'appelle, c'est sous-titré Désillusion du neutre, publié aux éditions de l'Aube. Merci à vous d'être venu nous voir.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée. C'est déjà une vraie tendance de l'été. Beaucoup de Français ont prévu de se mettre au surf. Et parmi eux, il y a Julia Molcou. Autrement dit, la culture de l'actu va prendre l'eau dans quelques secondes.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto,
RTL Soir.
18h53. Alors non, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a le surf aussi. Les professionnels du secteur confirment une hausse de la pratique et on serait même en pénurie de profs, ce qui vous consterne un peu. Julia Molcou, bonsoir.
Ça fait beaucoup de peine. Bonsoir à tous.
Puisque le surf est dans l'actu, il est dans la culture de l'actu.
Alors tout le monde pense que le surf est né à Hawaï, pourtant c'est au Pérou, période pré-Inca, qu'on trouve les origines du surf. Les premiers témoignages écrits du surf hawaïen, eux, datent de la fin du XVIIIe siècle, lorsque les explorateurs européens arrivent à Hawaï et qu'ils décrivent cette pratique qui consiste à se tenir debout sur une longue planche. Dès les années 1900, le surf riding devient l'attraction touristique à Hawaï et quelques années plus tard, il arrive aux États-Unis et en Australie. Mais il faudra attendre la fin des années 50 pour voir les premiers surfeurs débarquer sur la côte basque. Sur la plage, dans les sables, je recherche des sensations. Sur la planche, sur la vague. Et voilà, dans les années 60-70, un peu partout dans le monde, on s'est mis à surfer. Alors, le surf est entré dans la culture. Le premier véritable film sur le sujet, c'est The Endless Summer, l'été sans fin, sorti en 1966, qui raconte le tour du monde de deux jeunes surfeurs à la recherche de grandes vagues cassantes. Et puis 25 ans plus tard, ces surfeurs-là furent détrônés par Johnny et Buddy.
C'est le grand frisson. Y a rien qui s'en rapproche, même pas le sexe. T'es sur le fil entre la vie et la mort.
Je soutiens que le FBI acceptera de me payer pour faire du surf.
Vous l'avez quand même.
Oui, absolument. Brice Denis.
Non.
Celui d'après.
Fun break.
C'est pas lui la bonne ligne.
Non, mais c'est pas votre. Donc ça veut dire que vous n'avez vu ni l'un ni l'autre.
Fun
break, réalisé par Catherine Bigelow, sorti en 91 avec Patrick Swayze et Kenny Reeves, et qui raconte l'infiltration d'un gang de surfeurs braqueurs par un jeune agent du FBI. Mais en effet, 15 ans plus tard, c'est encore le fameux Buddy, héros donc de Point Break, qui inspire le plus grand surfeur de Nice, Brice. Une perruque blonde, un t-shirt jaune, un pantalon noir, une planche de surf et un air con. Voilà comment Jean Dujardin décrit lui-même son personnage de Brice de Nice, créé dans les années 90 et devenu culte depuis.
Et puis le surf, on y est déjà un peu, c'est aussi une histoire de musique.
Oh là là, oui. Alors ça commence dans le sud de la Californie dans les années 60 avec l'émergence du surf rock. Style musical instrumental et virtuose dont l'un des membres fondateurs n'est autre que Dick Dale qui avec son groupe The Deltones va faire d'une chanson d'amour grecque un standard du genre.
Ça va. Alors, c'est une chanson d'amour grec à l'origine, ça ?
Au départ, ça s'appelle Misrinou et c'est une chanson d'amour grec. Ça devient ça quand Dick Dale s'en empare et puis on vous l'aurait reconnu, c'est évidemment le thème popularisé par
Pulp Fiction.
La suite par Tarantino, non Pulp Fiction.
Celui-là, je l'ai vu.
Bon, et puis après le surf rock, on a vu apparaître la surf pop, emmenée d'une main de maître par les Beach Boys, bien sûr. Le titre Surfin sort donc en 1961, suivi l'année suivante par Surfin Safari, bientôt rattrapé par Surfin USA, immense tube reconnaissable dès les premières mesures, mais les Beach Boys n'avaient pas encore tout écrit sur le surf.
Enfin, joliment mièvre,
Surf
hein, je
Girl, 1963, mais ça s'appelle quand même Exploiter un filon, non ? Quatre titres.
Là, je trouve que vous éditorialisez un peu sur la fin. Allez, un bol de soupe, ça suffit. Merci beaucoup, Julien.